Le silence des petits papiers par Richard Keller. Chapitre 1. Exceptionnellement, Jean-Christophe ne releva pas son courrier ce jour-là. Son épouse, bénéficiant d'un jour de congé, était à la maison. Elle profitait d'un temps printanier pour jardiner. Victime d'insomnie, il n'avait trouvé le sommeil qu'au petit matin. 10 heures sonnaient le clocher du village. Il se leva d'un bond et rejoignit son bureau. Posé sur la tablette, l'enveloppe marron attendait d'être lue. Une écriture tremblotante, en majuscule, en avait rédigé les coordonnées. Une autre main avait procédé au rajout de la nouvelle adresse. La missive détonnait parmi les dossiers parfaitement rangés. Il se dirigea vers son bureau, s'approcha de l'ordinateur, et aperçut le courrier près du clavier. Il s'en saisit et, par habitude, l'examina sous toutes les coutures avant de procéder à son ouverture. L'expéditeur avait utilisé une enveloppe de réexpédition fournie par la poste pour acheminer la correspondance vers le nouveau domicile. Il était surpris de recevoir une lettre dans ce conditionnement. En effet, lorsqu'il s'était rendu à la poste pour effectuer son changement d'adresse, il avait réclamé quelques enveloppes gratuites. La guichetière, fort aimablement, lui indiqua qu'il y avait eu une évolution du produit et que désormais la prestation serait payante. Il se dit alors que la gratuité du service public se rétrécissait comme une peau de chagrin. Dorénavant, le paiement constituerait la règle. Il devait se faire une raison. Il empoigna un coupe-papier en forme d'épée et coupa délicatement l'emballage sur le côté droit. Un ruban adhésif résistant retarda l'opération. Il prit une paire de ciseaux et parvint à l'ouvrir. Le contenu le laissa perplexe. Des coupures de journaux constituaient l'envoi. Certaines, jaunies, semblait provenir d'une époque lointaine. Il étala les feuillets sur une table voisine. Il réfléchit en se grattant le menton. Il se demanda ce que cela signifiait. Hormis la rédaction de l'adresse, l'expéditeur n'avait joint aucun mot d'explication. Il ne lui restait qu'à s'imprégner des différents articles afin de se forger une opinion sur l'objet de cette missive. Bien entendu, celui qui lui avait expédié ces documents voulait lui dire quelque chose. Il se méfiait de ce genre de messages. C'était souvent l'activité favorite de farfelus en mal de sensationnel. Aujourd'hui, il était la cible. Mais sa curiosité naturelle l'inclinait à s'imbiber davantage pour comprendre le but de ce pli. Il tenait toujours l'enveloppe dans sa main gauche. Il la tourna dans tous les sens, puis l'aligna à côté du reste. Il avait quitté son travail depuis bientôt 2 ans. Il y pensait fréquemment avec nostalgie. Il y avait vécu des moments forts et rencontré des gens inoubliables. Maintenant, une vie différente s'offrait à lui. Il pouvait souffler un peu tout en écrivant des histoires policières. Les circonstances et Internet lui en avaient offert l'opportunité. Ce changement n'était pas pour déplaire à son épouse, qui pouvait passer plus de temps à sa compagnie. Il disposait d'un peu de temps. Il n'avait rien programmé ce matin-là. Il attrapa le premier feuillet. Le journaliste faisait état d'un glissement de terrain dans la montagne savoyarde. Il lut et relut la dizaine de lignes. Il constata que l'éboulement avait obstrué la route sur une centaine de mètres. Il était précisé qu'aucune victime n'était à déplorer. Il rangea la coupure et s'empara d'une page entière. Un quidam s'exprimait sur sa triste découverte lors de ses vacances au Portugal. Une vieille femme, surnommée la Marilyn de Bahia, avait été sauvagement assassinée. Le touriste français l'avait retrouvée baignant dans son sang. Il s'ensuivait des commentaires sur la vie peu banale de cette tenancière de restaurant. Sa curiosité naturelle l'amena à s'intéresser de plus en plus aux puzzles posés devant lui. Il désirait avancer dans ce rébus. Tout ça l'intrigua au plus haut point. Il venait de plonger dans une affaire qui ne le lâcherait plus pendant des jours et des jours. Pour l'instant, il se contenta de parcourir le papier suivant. Il s'agissait d'un véhicule embourbé dans un marais de l'avant-pays savoyard. La voiture volée, de marque et d'immatriculation italienne, avait été abandonnée par ses occupants. Il essayait déjà de lier dans son esprit les affaires. À première vue, il ne voyait pas le fil qui assemblait ces faits divers les uns aux autres. Rien ne concordait, ni les lieux, ni les dates. Il posa ses yeux sur une quatrième page. Le correspondant évoquait l'incendie de nombreuses granges dans les départements de l'Isère et de la Savoie. Le rédacteur s'interrogeait sur la fréquence et les risques lorsque le fourrage fermentait. Sa perplexité gagnait du terrain à chaque lecture. D'article en article, le mystère s'épaississait. Il prenait conscience que cet envoi n'était pas anodin. Il se cachait quelque chose derrière ces papiers jaunis. Ce n'est pas la femme inconnue, la nuque brisée, dissimulée par le rideau d'eau de la cascade du cirque de Saint-Même, qui pourrait dire le contraire. Il avala les mots, disséqua les coupures. Il parcourut un reportage relatant une autre trouvaille. Un homme d'une trentaine d'années emmuré dans la cave d'un château dans l'enclave des Papes. Décidément, les meurtres s'étaient déroulés dans plusieurs régions et plusieurs victimes n'étaient pas identifiées à la date de parution des journaux. Il lui restait à prendre connaissance de trois papiers. L'un relatait le sac macabre ramené par des ouvriers sous le parapet du pont François Ier à Pont de Beauvoisin. Deux hommes d'une entreprise de télécommunications, effectuant des travaux sur un coffret, trouvèrent un sac poubelle contenant les restes d'un enfant suspendu au-dessus de la rivière Le Guier. Un autre comptait le séjour rocambolesque d'une chèvre s'étant égarée dans le sous-sol d'un œnologue amateur. Le chroniqueur racontait d'une plume humoristique l'aventure cocasse et la colère du propriétaire de la cave, dévasté par l'animal apeuré. Le calvaire des bouteilles de grand cru brisées sous les coups de corne répétés de la pauvre bête donnait au récit un côté pathétique. La dernière feuille concernait une disparition. Le journal lançait un appel à témoins suite à la volatilisation d'une mère de famille de 28 ans. Il lut la date imprimée sur la page en mauvais état, 19 avril 1920.